nous avons reçu en première heure. Alors c'était donc l'émission Faites-nous des chansons qui s'achève et nous allons laisser la place à notre ami Gaël pour l'émission Radio Cartable, l'émission des enfants des écoles d'Ivry qui s'adresse à tout le monde, n'est-ce pas Gaël ?
Qui s'adresse aux enfants et aux adultes, effectivement. Merci Pascal. Est-ce que j'enchaîne ?
Tout à fait.
Eh bien, vous êtes bien sûr 89.4 FM, Radio Libertaire, et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Cette semaine, nous allons rediffuser à nouveau deux sons. Le premier, eh bien, c'est la suite de l'histoire Abdoulaye mon ami, qu'on avait commencé à écouter la semaine dernière. Alors, il s'agit d'un extrait uniquement. Hein. Et dans l'épisode précédent, on avait rencontré Abdoulaye qui vient d'arriver en France et vit chez son oncle. Et il devient le bouc émissaire d'un garçon de sa classe, Roger. Ça va durer une demi-heure, on n'écoutera pas encore toute l'histoire, mais bientôt vous pourrez en écouter davantage, en particulier dans l'exposition qui va être ouverte à partir du 11 octobre à l'espace Gérard Philippe au centre-ville d'Ivry, pour fêter les 40 ans de Radio Cartable. Dans la deuxième demi-heure, on écoutera Merlot, c'est un chanteur ivrien qui a été interviewé en 2009, et qui intervient cette année à nouveau dans les écoles d'Ivry. Bonne écoute.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Dans le cadre du projet d'éducation à la santé, nous avons travaillé sur une suite de l'histoire d'Abdoulaye Djemoké.
Abdoulaye arrive du Zaïre en France. Il habite chez son oncle à Ivry-sur-Seine. Il va à l'école. Il est présenté à ses nouveaux camarades par Marie, la directrice.
Le maître, Monsieur Carrier, met Abdoulaye à côté d'un raciste nommé Roger. Ils font de la grammaire et Abdoulaye ne comprend rien.
À la récréation, Roger provoque Abdoulaye. Ils se battent et Abdoulaye se défend. Après la récréation, ils font des mathématiques. Abdoulaye est brillant.
À la sortie, Roger et sa bande attaquent Abdoulaye. Ils courent jusque chez son oncle avec une copine, Anan. Abdoulaye raconte sa journée à son oncle.
Comme son oncle ne peut pas lui payer le judo, il ne veut plus retourner à l'école. Et il est persuadé qu'il n'aura jamais d'amis.
La sonnerie retentit. Les élèves se rangent et montent en classe. Abdoulaye et Anan, sur l'instant, se sont demandé de quoi Pierre voulait parler. Mais ils ont vite compris que c'était bien Roger qui les avait entendus ce matin et qui avait mal interprété le secret d'Abdoulaye. Le midi, Roger ne mange pas à la cantine. La bande en profite pour... pour commenter le piège de Roger. Tous ne comprennent pas pourquoi Roger s'acharne sur Abdoulaye. Alors, Pierre prend la parole.
J'ai prévenu Abdoulaye que Roger l'attendrait à la sortie.
Très bonne idée.
Il faudra ralentir Roger dans le couloir.
Mais comment ?
On lui accrochera son blouson à un porte-manteau au bout du couloir.
Parfait. Et ne disons rien jusqu'à ce soir.
L'après-midi se déroule sans problème comme prévu. Déjà la sortie des classes arrive. Tous les élèves sortent. Abdoulaye est un des premiers à sortir de l'école. Roger sort et cherche son blouson que Pierre a caché au fond du couloir avant de rentrer en classe. Roger est furieux. Il court dans le couloir en grognant et en interpellant ses copains.
Vous ne pourriez pas m'aider à chercher mon blouson au lieu de me regarder sans rien faire ?
Ils font semblant de chercher un peu et se dirigent vers la sortie. La directrice qui passe dans le couloir ramasse un blouson et, arrivée à côté de Roger, lui dit
« Ne serait-ce pas ceci que tu cherches ?»
Et elle lui montre le vêtement qu'elle a trouvé.
« Oui, merci madame, c'est bien le mien. »
Et il part en courant, en espérant que ses copains ont réussi à rattraper Abdoulaye. Pendant ce temps, Pierre et les autres rattrapent Anan et la questionnent.
« Où se trouve Abdoulaye ?»
demande Pierre.
« Je ne sais pas. « Je ne dois pas le dire, »
répond Anan.
« Pourquoi ne veux-tu pas le dire ? Je ne vous fais pas confiance. On a lâché Roger. Maintenant, tu peux nous dire où il se cache. Alors suivez-moi. Nous allons chez son oncle. »
Tous partent en courant chez l'oncle d'Abdoulaye. Il sonne. L'oncle ouvre la porte et voit Anan. Alors il comprend tout de suite que la visite est pour Abdoulaye. Et il l'appelle.
Abdoulaye, c'est pour toi.
J'arrive, qui est-ce ?
Dépêche-toi.
Et il fait entrer les enfants. Abdoulaye court dans le salon et s'arrête brusquement, surpris de voir Anan avec les copains de Roger.
Pourquoi êtes-vous venu ?
Demande Abdoulaye.
Tu sais, on est avec toi maintenant. On a laissé tomber Roger parce qu'on en a marre de jouer les racistes. Le piège que voulait te tendre Roger est trop méchant. Et maintenant, tu peux nous dire pourquoi tu veux partir.
Mais, je ne veux pas partir.
Allez, dis-le-nous. Ce n'est pas une honte de vouloir partir.
Parce que j'ai fait un cauchemar. Je voyais ma mère se faire attaquer par les Niamis. J'ai peur que ce soit la réalité. Et maintenant, je veux voir ma famille ou avoir des nouvelles.
Mais si tu y vas, tu seras aussi en danger. Rappelle-toi, tu es venu en France à cause de ta blessure au pied.
Abdoulaye ne sait plus quoi faire. Il sait qu'il a des amis maintenant. Il est content, mais ses parents et ses sœurs lui manquent. Comment faire pour avoir de leurs nouvelles ? Il est si loin d'eux, de son pays. Et quelle va être la réaction de Roger ?
C'était le deuxième épisode d'Abdoulaye, mon ami.
Réalisé par le CM2 d'Alic Lecomte de l'école Jacques Solomon.
Bonjour, notre école s'appelle Amosha, nous sommes dans la classe de CM1A, notre maîtresse s'appelle Nadine.
Nous avons passé beaucoup de temps avec les médecins scolaires pour faire la suite d'Abdoulaye mon ami.
Nous sommes contents de vous présenter ce que nous avons imaginé. yo, and only why your mama at the why yo, he will why your mama at the why yo, but that may have a
Le lendemain matin, Anna n'est à peine arrivée dans la cour que Roger l'aborde d'un air agressif.
Alors, il a peur de ton sauvage. Il est retourné dans sa forêt.
Allons, Roger, tu ne vas pas recommencer. Laisse-nous un peu tranquille.
Ok, pour quand le mariage?
Et alors, ce n'est pas tes oignons. Et d'abord, Abdoulaye est plus fort que toi et plus intelligent.
Anna hausse les épaules et essaie de s'éloigner. Mais Roger la rattrape brutalement par la poignée de son cartable.
Ne redis jamais ça! Sinon...
Roger lève la main, prêt à la frapper.
Arrête de crâner, tu ne me fais pas peur, mauviette.
C'en est trop pour Roger. Sa main atterrit sur la joue d'Anan, en laissant une belle marque rouge. Roger file rejoindre sa bande, tandis qu'Anan, au bord des larmes, se dirige vers la classe. La sonnerie retentit.
Anan a beau regard de tous côtés, Abdoulaye n'est pas encore arrivé.
A-t-il eu peur de revenir à l'école?
Anan n'est pas loin de la vérité, car lorsqu'il s'est réveillé ce matin-là, Abdoulaye n'avait vraiment aucune envie d'aller à l'école. Son oncle essayait de l'encourager et Abdoulaye, préoccupé, finit par prendre son cartable et sort de la maison. Il hésite encore beaucoup, fait quelques pas vers l'école, revient en arrière, fait le tour du pâté de maison.
Si je vais à l'école, il va encore me chercher des histoires et m'insulter. Mais si je n'y vais pas, je serai un lâche. J'aurai l'air d'avoir peur. Et puis Anan m'a aidé hier. Ils vont l'embêter, elle a peut-être besoin de moi.
À cette pensée, Abdoulaye se décide. Il doit revenir à l'école. Il se met à courir et arrive juste au moment où les élèves de M. Carrier viennent de s'installer dans la classe. Essoufflé et gêné d'être en retard, Abdoulaye s'excuse.
Tu n'as pas encore l'habitude de nos horaires, Abdoulaye? Ce n'est pas très grave pour aujourd'hui, mais demain, il faudra essayer de te réveiller plus tôt.
Abdoulaye et M. Carrier ont tous les deux remarqué la joue rouge d'Anan. Mais Abdoulaye n'ose pas lui parler et M. Carrier pense qu'il éclaircira plus tard cette histoire.
Maintenant, les enfants, nous allons commencer par un travail d'expression écrite. Prenez une feuille de classeur et chacun va raconter en quelques lignes sa soirée d'hier.
Tous les enfants écrivent, sauf Roger qui, l'air maussade et buté, garde la tête dans ses mains et se contente de faire des vagues sur sa feuille.
Un quart d'heure plus tard, voyant que tout le monde semble avoir terminé, Monsieur Carrier s'adresse à la classe.
Qui souhaiterait nous lire son texte à haute voix?
Plusieurs mains se lèvent aussitôt.
Anan, tu veux commencer?
Hier soir, je suis sortie de l'école avec Abdoulaye. Nous bavardions, il me parlait de son pays, quand tout à coup, Roger et sa bande nous ont agressés, mais nous n'avons pas voulu nous battre et nous nous sommes enfuis en courant. En rentrant chez moi, une surprise m'attendait. Mon père, qui est aviateur, était rentré plus tôt que prévu de son voyage au Congo. Et il m'a même ramené un cadeau un peu bizarre. Pour fêter ce retour, nous sommes tous allés dîner dans un restaurant africain.
D'autres enfants lisent aussi leur texte. Puis arrive le tour de Jérôme. Son intervention intéresse particulièrement Abdoulaye. En effet, après avoir raconté son entraînement au judo, Jérôme annonce.
Le président du club a décidé que jusqu'à la fin du mois, des initiations gratuites seront proposées tous les mardis et vendredis pour permettre à tous ceux qui s'y intéressent de découvrir le judo.
C'est alors que Monsieur Carrier remarque Roger en train de bâiller.
Roger, toi qui as l'air de t'ennuyer, tu vas nous lire ton texte?
Roger, honteux, devient rouge comme une tomate. Il refuse de parler. Monsieur Carrier se dirige vers lui.
Ah,
Je vois que tu n'as rien écrit.
Très bien.
Roger, je vais te garder un peu pendant la récréation. On a besoin de parler tous les deux. Ainsi que toi, Anan, j'ai quelques questions à te poser.
Au moment de la récréation, donc, quand tous les enfants sont sortis, Monsieur Carrier s'adresse d'abord à Anan.
Que s'est-il passé ce matin? Tu avais la joue toute rouge et on aurait dit que tu pleurais. Ce ne serait pas encore une histoire de Roger?
Oui, c'est moi. Anan m'a provoqué, elle m'a traité de crâneur et de mauviette. Moi, quand on me cherche, on me trouve.
Sais-tu qu'on n'a pas le droit de taper une fille, même avec une rose?
Ce n'est pas très grave, monsieur. C'est vrai, c'était aussi un peu de ma faute, mais j'aimerais bien que Roger me fiche un peu la paix.
Merci, Anan. Tu peux rejoindre tes amis.
Roger baisse la tête et reste silencieux.
Si cela continue, je vais être obligée de convoquer tes parents.
À ce moment, Roger s'effondre ou sanglotant.
J'en ai assez. Tout le monde me rejette.
Quoi, tout le monde? Qu'est-ce que tu veux dire?
Oui, tout le monde. Anan, ma mère.
Ta mère? Qu'est-ce que tu racontes? Elle s'occupe très bien de toi.
Avant, oui. Mais plus maintenant. Maintenant, il y a un nouveau dans sa vie. Un autre homme. Un de Côte d'Ivoire. Et moi, j'existe plus. Je vois plus mon père. Et le nouveau, il voudrait que je l'appelle papa en plus. Il me traite comme un esclave. Si j'ai rien écrit tout à l'heure, c'est parce que hier soir, ils étaient même pas là. Et moi, j'étais tout seul avec mon chien. Si ça continue, je m'enfuirai. J'irai chez ma grand-mère.
Monsieur Carrier, tout ému par ce récit, essaie de calmer Roger. Nous essayerons de reparler de tout ça avec ta mère et avec Marie. En attendant, essaye un peu d'oublier tout ça quand tu es à l'école.
Pendant ce temps, dans la cour, Abdoulaye, après beaucoup d'hésitation, se décide à aller questionner Jérôme.
Excuse-moi de te déranger, Jérôme, mais ce que tu as dit tout à l'heure en classe pour le judo, c'est vraiment pour tout le monde?
Bien sûr.
Est-ce vraiment gratuit?
Oui.
Et ça se passe où?
Au gymnase Pierre-Marie Curie.
Mais si, je ne sais pas où c'est.
Si tu veux, on ira ensemble vendredi prochain.
D'accord, merci beaucoup. Mais après, si je veux m'inscrire, combien ça coûte?
En principe, c'est 560 francs. Mais peut-être que le prof te fera un prix parce que tu arrives au milieu de l'année.
Abdoulaye, tout réjoui, a envie de crier, de sauter, de faire partager sa joie. Il ne pense plus qu'à une chose, vivement vendredi. Le soir, en rentrant, il est étonné de ne pas trouver son oncle Ségor, qui lui a laissé un petit mot sur le frigo. Ne t'inquiète pas, je rentrerai un peu tard. J'ai rendez-vous à la préfecture de Créteil. Abdoulaye prend son goûter, fait ses devoirs et attend patiemment en regardant des photos de sa famille. Soudain, la porte s'ouvre brusquement et Ségor entre en criant d'un air joyeux.
Abdoulaye, Abdoulaye, j'ai trouvé du travail. Je commence lundi. La vie va être un peu plus facile.
Youpi, ça c'est une bonne nouvelle. Moi aussi j'en ai une. J'ai parlé avec Jérôme et je vais aller avec lui à des séances de judo gratuits.
Je suis vraiment content pour toi. Si ça te plaît, je pourrai t'inscrire, c'est pas trop cher.
Voilà, notre histoire est terminée. À vous de la continuer.
Pourra-t-on un jour vivre sur la terre sans colère, sans mépris, sans chercher ailleurs qu'au fond de son cœur la réponse au mystère de la vie? Dans le ventre de l'univers, des milliards d'étoiles. Naissent et meurent à chaque instant, où l'homme apprend la guerre à ses enfants.
Chercher Abdoulaye.
Abdoulaye, tu viens de me chercher?
Non, j'ai pas envie de venir.
Pourquoi?
Parce que tout le monde m'embête à l'école.
Bah, tu t'en fiches.
Maintenant, après, Roger, il va vouloir me taper.
Ben non, t'as qu'à le dire au maître.
Mais si je dis au maître, ils vont rien faire.
Eh ben même,
ils vont lui dire de ne pas recommencer.
Eh ben même, c'est pas lui qui va te gâcher toute ta vie.
Mais même, je veux pas venir.
De toute manière, tu n'es qu'un lâche. Faut qu'on aille parler à Roger.
Mais ça sert à rien si je suis un lâche, puisque je veux pas me bagarrer à l'école.
Eh ben, tu vas pas te bagarrer, je t'ai dit qu'on va parler avec lui.
Mais je sais pas encore, parce que j'ai peur qu'il me tape avec ses amis.
Eh ben, de toute manière, voilà ce que je t'ai dit, que tu n'étais qu'un lâche, t'as peur de Roger.
Je sais pas, je vais essayer de réfléchir un peu, là.
Abdoulaye, viens!
Bon, d'accord, si t'insistes, oui, je vais venir. Je vais chercher mon cartable.
D'accord, je t'attends là. Dépêche-toi surtout, hein.
D'accord.
Anan et Abdoulaye arrivent à l'école et Roger est déjà là.
Bonjour Roger,
ça va?
Philippe?
Ouais.
Non, j'ai pas trouvé, moi, j'ai pas trouvé le
superfice. C'était 20? C'était 20? Oui?
J'ai mis 60, moi.
T'as tout faux.
C'est toi, faux.
C'est toi?
Roger?
C'était 2 fois 4? Quoi?
Est-ce que tu veux devenir ami avec Abdoulaye?
Non!
Mais pourquoi il est pas si méchant que ça?
Non, fou! Pourquoi? C'est pas moi qui t'a provoqué!
Non,
si,
c'est toi! Provoqué. Non, non,
c'est toi qui m'a provoqué! Laisse-moi aller! Casse-toi!
Ben, c'est toi, hein. Tu peux lui parler autrement,
si tu veux. Ouais,
c'est pas méchant que ça!
C'est vrai,
je peux te venir que c'est toi qui te provoque!
Voilà,
c'est
toi!
L'école, tu voulais me taper avec tes copains!
À la sortie, c'est moi!
Je suis rentré chez moi en cours!
Tu vas voir!
Je tiens à voir, mon père, j'étais fatigué!
Mon père, il va arriver, il va défoncer ton oncle en moins de deux.
Ouais, c'est quoi? Ouais. Mon oncle,
pourquoi tu tires la
langue?
Pourquoi tu tires la langue?
C'est trop méchant, Roger.
Va avec lui, allez. Vas-y, c'est trop méchant, Roger, toi.
Va
fou. C'est trop méchant, Roger.
Ouais, là, insiste avec moi, il a voulu se battre.
Ah oui, là, je pense que quand même, il exagère.
Ouais.
Ouais, trop raciste.
Même il a voulu que je joue avec personne et il veut que des copains pour lui.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant?
Alors, on peut jouer tous avec Abdoulaye et laisser Roger de côté, vous êtes d'accord?
Oui, une idée comme ça, on va dire
aux autres.
Alors, on peut laisser Roger de côté et jouer avec Abdoulaye maintenant, vous êtes d'accord?
Oui.
À la récréation, les enfants jouent.
1, 2, 3, soleil! Mathieu, bougez!
J'ai pas bougé, c'est pas vrai, t'as
pas
bougé!
Ne bouge pas, bougez! 1, 2, 3, soleil.
Boubacar,
bougez.
Non, t'as pas bougé, Abdoulaye.
Si, t'as bougé. Non, t'as même pas... bougé avec Paul.
T'es en train de rester comme ça, Abdoulaye.
Je joue.
Non, je joue.
Non.
Pourquoi? Nous avons décidé qu'on jouait nous seuls.
Je vous ai rien fait.
Si, tu traites Abdoulaye de sang noir.
Je l'ai pas traité, c'est lui qui a commencé la baston.
Si, c'est toi qui as commencé.
Allez, c'est un sale jeu, je joue pas, allez.
Hey, il y a le maître qui nous appelle pour aller à la piscine.
Ouais, on y va à la piscine, mais même...
J'ai oublié mes affaires.
Mais c'est pas grave, Philippe, ça sera pour une prochaine fois.
Ouais, il a raison.
À la piscine, les enfants apprennent à nager.
Vite, Roger! Dépêche-toi! Vite, Roger! 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 V
Après l'accident, les enfants retrouvent Philippe à l'école.
Philippe, tu sais, Roger s'est noyé.
Où?
Dans le grand bain.
Dans le grand bain. Il a un enfermé.
C'est grave?
Pas si grave que c'est, il a avalé un petit peu d'eau. Bon, maintenant, on essaie de retirer tout l'eau qu'il a dans la bouche. Et puis sinon, après, il va peut-être venir nous voir et puis ça va y aller mieux. Tiens, il y a Roger. Ça va, Roger?
Ouais, ça va.
Qu'est-ce qu'il t'en parle, la farmerie?
Non, j'ai toute l'eau.
Heureusement qu'Abdoulaïd, il était là. Sans ça, tu te serais noyé.
Non, c'est Abdoulaïd.
Tu veux bien me causer maintenant?
Oui.
D'accord.
Tu pourras m'apprendre à nager?
Mardi à 4h30, si tu veux.
D'accord.
Aïe, ils sont devenus copains, c'est génial. Maintenant, on va tous s'amuser ensemble.
Allez, venez, on y va s'amuser.
Ouais.
On joue à quoi?
Roger, je suis très content que tu t'es réconcilié avec Abdoulaïd.
C'est normal, il m'a sauvé.
Moi, ça m'a fait très plaisir.
Moi, je suis content que je sois devenu copain avec Roger.
Moi aussi.
On pourrait souhaiter ça en faisant, je sais pas, quelque chose.
On a qu'à aller tous au parc floral.
Au musée du Louvre.
Au jardin des plantes.
Pas forcément, on peut faire autre chose d'autre.
On pourrait rester ensemble.
Bon, bah alors...
Une boum, alors, ça vous dit?
Ouais, c'est ouais, bien, ouais, c'est une bonne idée.
Alors, on l'a fait chez qui?
Chez moi.
Ok.
Vous êtes d'accord?
Ouais. Mais...
Oui.
Mais il faudra ramener tout, hein.
Moi, je vais ramener de la boisson, des Coca-Cola.
Tout, ouais, des cassettes. Ouais, je ramène des gâteaux.
Ramener des chewing-gum.
Alors, bon, bah alors, à ce soir, n'oubliez pas pour la boum de Roger, hein.
Ouais.
Salut. Allez, salut.
À 4h30, les enfants sortent de l'école.
Salut les mecs! Salut mon pote à la compote! Ce soir, je fais une boue. Mais où ça,
Chez moi.
Je peux venir chez toi.
Ben oui, je peux venir chez moi.
Je peux venir chez toi.
Ben oui, tu peux venir chez moi.
Je peux venir chez toi.
Oui, tu peux venir chez moi.
Est-ce qu'il y aura de la musique?
C'est quoi comme cassette?
C'est Michael Jackson.
On va s'amuser cette soirée-là et on va bouffer comme des poules.
Ouais
yeah. Aboulé arrive chez son oncle.
Bonjour.
Ah, bonjour Abdoulé. Alors, ça s'est bien passé cette journée d'école?
Oui, je me suis réconcilié avec Roger. Il a coulé dans le grand bas, je suis allé le sauver.
Ah, tu l'as sauvé?
Oui. Et je voulais demander ça... si je peux aller dans une boum de Roger.
Une quoi?
Dans une boum.
Une boum? C'est quoi ça, une boum?
C'est où il y a des gâteaux à manger et tout. Il y a de la chanson, il y a plein de choses. Ça fait des choses comme ça.
Mais c'est où ça? Tu vas y aller tout seul?
Hein? Non, avec des amis et des copains.
Chez Roger?
Oui.
C'est chez Roger?
Oui.
Ah bah tu peux... Non, c'est hors de question.
Allez, s'il te plaît.
Allô, mon petit garçon, tu peux pas aller chez Roger. Tu peux rien apporter. J'ai plus un sou. Tu peux rien apporter.
Non,
non, non.
Je suis obligé de ramener.
Ah si, si, on va passer quelqu'un les mains vides. Ouais, non, non. Non, non, moi je peux pas te laisser aller tout seul.
Allez, s'il te plaît.
Je te dis non, c'est pas possible.
Allez, si.
J'ai pas d'argent, je peux pas te laisser. Je n'ai pas d'argent.
Mais c'est pas payant.
Mais ça suffit. Allez, va dans ta chambre.
T'es méchant, je vais plus rien faire pour toi, c'est fini. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il veut rien que je fasse. Il veut même pas que je fasse rien. Je lui ai dit qu'il m'inscrit au judo. Il veut même pas. Il est méchant, il exagère. Oh là là. Et si je trouvais une idée à faire quelque chose? Hein? Et si je demandais à mes copains de m'aider?
Sur la position A, mets-toi dans la tête, il n'est jamais trop tard. Oh, mets ton cerveau sur la position A, mets-toi dans la tête, il n'est jamais trop tard. Au devant des comptes arrivés ces derniers 35 ans, à Paris City pour gagner de l'argent. On leur avait parlé du grand rêve parisien, sont arrivés d'ici, ils ont trouvé moins que rien. Dans des bidonvilles, on les a installés, des maisons vantos sans électricité. Pour les faire déménager 5 années plus tard, une cité bidon, cité du désespoir. Mais pour bouger, mets ton cerveau sur la position A. Mets-toi dans la tête, tu n'es
mais trop tard. Oui, t'es dans le cerveau, sur la position A. Il
faut bouger.
Mais t'as dans la tête qu'il n'est jamais trop tard. Quand on va donner voix où on n'a pas voulu, c'est dans les différents de son voisin. Au moment où on a donné le dos, quand un jour quelqu'un nous a tendu la main. À tous ceux qu'on avait jalousés, pas méchanté, juste qu'on avait trop faim. Car pour moi, c'est du mal, n'est pas mon idéal. Mon besoin, c'est une, mais moi, j'allume un joint. Car pour bouger, mets ton cerveau sur la position A.
Car pour bouger,
mets-toi dans la tête, il n'est jamais trop tard. Oui, mets ton cerveau sur la position A.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Je m'appelle Albilal.
Bonjour, je m'appelle Héloïse.
Bonjour, je m'appelle Orphila.
Bonjour, je m'appelle Angélica.
Bonjour, je m'appelle Stéphane.
Nous sommes les CM1B de l'école Jacques Solomon et nous allons interviewer aujourd'hui, pour vous, Manuel Merlot.
Mais dis donc, Héloïse, c'est qui ce Merlot ?
Eh bien, Merlot, c'est un chanteur ivrien né en 1974. Il faisait auparavant partie d'un groupe de reggae, le groupe Baobab, avec qui il a sorti 4 albums.
Aujourd'hui, nous l'interviewons à l'occasion de la sortie de son premier album en solo, Chanson d'amour et de haine, sorti le 16 juillet dernier.
Bonjour Merlot, accepterais-tu de répondre à nos questions pour tous les auditeurs de Radio Cartable ?
Bonjour, c'est moi Merlot, je suis très enchanté de rencontrer les enfants qui s'occupent de les Radio Cartable.
Un loser, la 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 la, la 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 la. À l'école que tout a commencé. Déjà à l'époque j'étais un entêté. Mon père et ma mère se faisaient du souci. Combien de fois le prof m'a dit: Merlot, c'est quoi ce torchon? C'est vraiment dommage car vous n'êtes pas con. Vous feriez mieux de penser à avoir le bac en poche plutôt que d'écouter Peter Tosh. Madame, je suis un quepon. Je n'ai pas d'avenir, de toute façon. Y'aura plutôt plus à bouffer sur la planète quand j'arriverai à l'âge de la retraite.
Tu n'es qu'un loser, pas un patron.
Je sais.
Tu n'es qu'un loser, tu n'es qu'un fainéant.
Je sais, je sais.
Tu n'es qu'un loser, on te l'a toujours dit.
Ouais.
Dis-moi que vas-tu faire de ta vie.
Je suis rentré chez moi un peu déconfit, un peu déprimé, dites-moi serais-je maudit. À peine dépassé la porte d'entrée, j'ai vu ma mère qui m'attendait sur le canapé. Merlot, j'attends des explications.
Merlot.
J'ai trouvé ça dans ta poche de pantalon. Regarde tes potes, regarde bien ta tête. Vraiment mon fils, tu m'inquiètes.
Tu n'es qu'un loser, pas un patron.
Ah.
Tu n'es qu'un loser, tu n'es qu'un feignant.
Ah bon?
Tu n'es qu'un loser, on te l'a toujours dit.
Eh oui.
Dis-moi que vas-tu faire de ta vie.
Je sais, je sais.
Tu n'es qu'un loser, pas un patron.
Je sais, je sais.
Tu n'es qu'un loser, tu n'es qu'un feignant.
Un loser.
Tu n'es qu'un loser,
un loser.
Dis-moi que vas-tu faire de ta vie.
Comme j'avais besoin de renflouer mes caisses, ma mère m'ayant prié de changer d'adresse, je suis allé rencontrer plein de stress un grand producteur du show business. Je chante, je danse et j'écris mes textes. J'ai même amené avec moi la plume dans mes fesses. Il m'a dit je cherche un truc bien gentil, du genre un peu raga, un peu R&B. Il m'a dit Merlot, ça vaut pas un clou. Tu peux remballer tes chansons toutes cheloues. Croisant mon expérience, faut laisser tomber. Tu devrais aller chercher un vrai métier.
Tu n'es qu'un loser, pas un patron.
Ah bon?
Tu n'es qu'un loser, tu n'es qu'un feignant.
Je sais, je sais, je sais.
Tu n'es qu'un loser, on te l'a toujours dit.
Eh oui.
Dis-moi que vas-tu faire de ta vie.
Oui, 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 oui.
Tu n'es qu'un loser, pas un patron.
Un loser.
Tu n'es qu'un loser, tu n'es qu'un feignant.
Un loser.
Tu n'es qu'un loser, on te l'a toujours dit. Sa vie, tu n'es qu'un loser.
Merlot. Merlot. Merlot.
Tu n'es qu'un loser. n'est qu'un loser.
Merlot.
Un loser, loser. Comme je n'entrais toujours pas au bain douche, je suis allé voir mes potes les manouches. Comme je n'ai pas percé dans la variété, j'ai essayé la bandicité. On vivait dans un parc à Choisy et on rentrait chez les gens la nuit. Mais quand on est loser, ouais c'est pour la vie. Un soir on est entré chez la fille Sarkozy, s'en est défait de nous. On a pris 2 ans et on a pris sur nous. Quand au tribunal le juge m'a regardé et m'a dit Merlot, vous savez, tu n'es qu'un loser, pas un battant. Tu n'es qu'un loser, tu n'es qu'un feignant. Tu n'es qu'un loser, on te l'a toujours dit. Dis-moi que vas-tu faire de ta vie. Tu n'es qu'un loser, pas un battant. Tu n'es qu'un loser, tu n'es qu'un feignant. Tu n'es qu'un loser, on te l'a toujours dit. Tu n'es qu'un loser, pas un battant. Tu n'es qu'un loser, ouais. Loser, ouais. Loser, pas feignant. Un loser, ouais. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
D'abord, Merlot, pourquoi avoir pris ton vrai nom pour faire ce disque?
Ça, c'est une bonne question. Eh bien, parce que c'était plus simple, et puis parce que c'est des chansons qui parlent de choses que je connais bien, qui sont proches de moi, donc j'avais envie que ça soit mon nom, que ça soit moi, que j'invente pas un nom, que ça soit mon vrai nom. Voilà. Et puis je trouvais que c'était pas mal aussi, Merlot, que je trouvais que ça sonnait bien.
Viens-tu d'une famille de musiciens ?
Non, pas du tout. Mes parents n'étaient pas du tout musiciens, et j'ai découvert la musique par d'autres gens, des amis, des copains au lycée, surtout au lycée. J'ai rencontré des gens qui étaient dans ma classe avec qui on s'est intéressé à la musique et puis on est devenus musiciens ensemble. Voilà.
Depuis quand es-tu musicien, Merlot ?
Eh ben écoute, depuis quand ? Depuis en fait on a commencé au lycée, comme je vous disais, on était lycéens, on a commencé et puis on a été jusqu'au bac, on a essayé d'être sérieux et d'aller jusqu'au bout du cursus du lycée, donc d'aller jusqu'au bac. Et parce que nos mamans, elles nous regardaient avec des yeux comme ça en se disant, mais dis donc, mais tu veux faire de la musique, mais et les études, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, parce que la musique c'est pas un métier. Donc on a quand même insisté, on a eu notre baccalauréat. Vous connaissez, vous savez ce que c'est que le bac? Bon, ben voilà, on a eu notre bac. Et après le bac, on a fait que de la musique. C'est devenu notre métier. Donc à 18 ans.
À notre âge, tu rêvais déjà de faire de la musique ton métier?
Ah non, pas du tout. Non, je voulais être vétérinaire, je crois, ou pompier.
Dans ta chanson « Loser », tu parlais de l'école. Et alors, Merlot, comment c'était l'école pour toi ?
C'est bien. Alors, à l'école, moi, j'étais à l'école à Einstein. Vous connaissez Einstein ? L'école Einstein ? Moi, j'étais à l'école Einstein. Et je crois que j'étais un assez bon élève, mais j'étais un petit peu dissipé, comme on dit. Mais sinon, j'étais un bon élève, j'avais des bonnes notes. Donc, la chanson, c'est pas complètement vrai.
Pourquoi as-tu décidé de jouer en solo ?
Parce que comment dire, maintenant je me retrouve tout seul parce que j'avais envie de pouvoir décider de tout ce que je faisais et de. Avant j'étais dans un groupe et un groupe tu dois demander tout le temps aux autres leur avis. C'est super bien parce que t'as des amis et puis tu fais des choses avec eux, tu partages plein de choses, mais c'est compliqué aussi un groupe parce que. Il faut que tout le monde soit d'accord. Et donc, moi, j'ai vécu ça pendant longtemps et j'avais envie de pouvoir décider un petit peu de tout et puis de pouvoir faire vraiment ce que j'avais envie comme musique.
Quel souvenir gardes-tu de ton premier groupe Baobab ?
Eh ben, c'était un merveilleux souvenir parce que ça a commencé à l'école et puis on a continué pendant 10 ans. Donc, on était des vrais amis et en même temps, on travaillait ensemble. Donc, c'était très agréable. Et puis c'est un groupe avec lequel j'ai beaucoup voyagé. On a été faire des concerts en Afrique, au Zimbabwe, en Tanzanie, en Afrique du Sud. On est allé en Palestine, on est allé aux Antilles. Donc on a beaucoup voyagé et c'était très enrichissant pour nous. Et puis on a fait plein d'albums. Donc on a vraiment vécu. C'était une très belle histoire, tu vois. C'était une très belle histoire de copains. On a eu des enfants presque en même temps. On était une famille, tu vois. Donc ça, c'était bien. Ça, c'est ça, mon souvenir.
Pourquoi avoir coupé tes cheveux après avoir quitté ton groupe ?
Comment tu sais que j'avais des cheveux avant et que j'en ai plus maintenant? Je comprends que tu sais, mais...
Sur le portrait d'Ivry Maville.
Eh bien, écoute, j'ai coupé mes cheveux parce que ils étaient trop lourds. Ça me tirait les cheveux, donc il fallait que je les coupe. Voilà, c'est pour ça. Et puis parce que je les perdais aussi un petit peu, tu vois, regarde là. On n'a presque plus.
Pourquoi avoir appelé ton premier disque solo Chanson d'amour et de haine?
Alors, bah écoute, c'est parce que je pense que dans la vie, il y a les belles choses et puis il y a les choses difficiles. Et que la vie, c'est tout ça. C'est les belles choses et les choses difficiles. C'est comme dans, quand on parle, il y a les gros mots et puis il y a les mots savants. Quand on a une amoureuse, eh ben, il y a l'amour et puis il y a aussi les disputes. Donc la vie, c'est tout ça. C'est ces deux choses-là. C'est jamais tout rose et c'est jamais tout noir non plus. Donc c'était pour parler de ça. Je sais pas si tu comprends, mais voilà.
C'était clair, mais quand vous dites qu'on a une amoureuse, on ne peut pas avoir la vie tout en rose. Est-ce que vous avez la vie en rose? Un peu.
Eh ben, il y a plein de choses qui sont roses. Il y a plein de belles choses dans la vie, ouais, c'est vrai. Surtout quand t'as une amoureuse. Ça rend la vie un peu plus rose, ouais, c'est vrai.
Aimes-tu être sur scène? Et pourquoi?
Ah bah oui, alors là, vraiment, c'est vraiment, s'il y a bien un endroit où je suis bien, c'est là, c'est sur scène. C'est là que je prends vraiment plus de plaisir. Et puis, c'est là qu'on regarde les gens dans les yeux. C'est là qu'il y a un vrai échange. Voilà, faudrait que vous veniez voir. Et, faire des disques, c'est plus pour, c'est une manière de faire connaître tes chansons pour pouvoir faire des concerts. Donc vraiment, ce qui est important pour moi, c'est les concerts. J'ai commencé comme ça. Et encore maintenant, hier, tu vois, j'étais en concert. Donc c'est mon vrai travail, c'est les concerts.
Comment définirais-tu ta musique pour les auditeurs de Radio Cartable?
Eh ben, ma musique, elle mélange plein de genres musicaux. Donc qu'est-ce que vous connaissez comme genres musicaux, vous? Comme genre de musique?
Il y a le jazz,
le rap, le hip-hop, l'R&B,
le rock.
Et ben voilà, moi, tous les styles qui existent, et ben je les prends et puis j'en fais quelque chose. Donc j'ai pas de limite, tu vois, j'écoute moi aussi, j'ai écouté du R&B, j'aime beaucoup le rap. J'écoute aussi de la chanson, j'écoute Pierre Perret, Renaud, je sais pas si vous connaissez. Et j'écoute vraiment tous les styles de musique et puis j'essaye de faire à ma sauce en me servant un petit peu partout. Voilà, donc il y a pas vraiment un style particulier. Mais on dit que ça s'appelle de la chanson, ce que je fais, à ce qui paraît.
Où trouves-tu l'inspiration de tes chansons?
Eh bien, dans la vie, en regardant mes copains vivre, en regardant les gens autour de moi, en regardant le monde comme il est fait. Voilà, c'est vraiment comme ça. C'est en lisant des livres aussi, en allant au cinéma. Toutes les choses de la vie peuvent servir à faire des chansons.
On m'a donné le revenu minimum pour me payer un repas minimum, pour vivre ma vie au minimum, moi qui ne suis en vrai qu'un minimum. On m'a donné le revenu minimum, juste assez pour que je ne braque personne. Et si je ne me contente pas de cette mini-somme, alors j'en prendrai pour un maximum. Si je pouvais trouver un mini-job, je pourrais me trouver une jolie mot. On irait faire un tour à Barcelone, ouais, et ça serait de la balle. Mais moi je passe mes nuits en rêvant de toi. Que le minimum, moi qui suis mi-humain et mi-microbe, je remercie le bon Dieu pour ce qu'il m'accorde dans sa très grande miséricorde. Je n'ai pas mes entrées au ministère, je ne sais pas me vendre, je ne sais pas leur plaire. Il faudrait que je rencontre une milliardaire pour me faire refaire les vaccinaires. Je passe mes nuits en
Es-tu influencé par la ville d'Ivry ?
Ah bah oui, alors là, sur ces chansons-là, oui, beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps à Ivry en faisant ces chansons. Et puis moi, je suis né à Ivry, j'ai grandi à Ivry. Donc je connais plein de choses ici et je connais beaucoup de gens. Et donc ouais, cette ville, elle me parle beaucoup. Et j'aime bien parler de cette ville parce que je l'aime beaucoup.
Commences-tu par écrire les textes ou bien la musique ?
Il y a plusieurs façons en fait de faire des chansons. C'est des fois tu peux commencer, tu fais une musique et puis tu trouves des paroles qui vont bien dessus, tu vois. Et puis il y a des fois bah tu as une chanson qui commence par un texte que t'as écrit comme une poésie et puis après tu rajoutes la musique par dessus. Et moi sur ces chansons là j'ai commencé vraiment par écrire d'abord des paroles et après selon le thème de la chanson, selon ce dont elle parlait, et ben on trouvait une musique qui collait bien avec les paroles. Voilà, c'était dans cet ordre là.
Que penses-tu d'Internet ? Et est-ce que cela t'a permis de te faire connaître ?
Ah bah oui, carrément. Internet, c'est devenu très important aujourd'hui. Et tout le monde sait s'en servir et puis c'est un moyen de se faire connaître vraiment directement. Les gens, t'as pas besoin d'avoir une maison de disques ou d'avoir de l'argent pour faire de la publicité, pour faire connaître ta musique. Tu peux directement faire connaître en direct, ça rentre chez les gens. Donc moi je m'en suis servi, je sais pas, peut-être que vous regarderez un jour. On a fait plein de petits clips, on a mis notre musique sur Internet. Et comme ça on s'est fait connaître, c'est comme ça que ça a commencé pour nous. En fait vous pourrez regarder, il y a plein de petits... j'ai un petit site qui s'appelle MySpace Merlot. Vous tapez MySpace et Merlot et vous trouverez... il y a plein de chansons, il y a plein de choses.
Ça s'écrit comment MySpace ?
C'est vrai que c'est un petit peu en anglais, ça s'écrit MySpace.
Je voudrais vous demander, quand nous tapons MySpace Merlot sur Google, faut-il écrire 3W avant ?
Non, si tu tapes ces deux mots-là, normalement t'arriveras directement, t'arriveras très vite sur mon site.
Que penses-tu du téléchargement illégal ?
Écoute, moi-même je le fais, tu vois, quand j'ai besoin d'écouter des chansons, j'en télécharge des fois. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et puis je pense que pour moi, c'est comme si des gens se prêtaient une cassette ou un disque, tu vois. Comme si je te prêtais un disque et puis que toi, tu m'en prêtais un. On faisait des échanges. Je trouve que c'est assez bien. Donc ça me dérange pas que les gens, par exemple, puissent écouter ma musique sans l'acheter. Pas du tout, ça me dérange pas. Voilà, parce que moi, je considère que je fais mon métier en faisant des concerts. Donc mes chansons, si les gens ils peuvent les écouter, tant mieux. S'ils les achètent, tant mieux. Mais s'ils les achètent pas, c'est pas grave. Au moins ils connaîtront ce que je fais.
Mais êtes-vous bien payé ?
Bien payé ? Non, je gagne pas des millions et des milliards. Non, non, je gagne ma vie normalement en faisant ce que je fais, voilà. Et puis il y a des moments où c'est plus difficile, des moments où tu gagnes un peu plus d'argent. La musique, tu sais, c'est pas forcément toujours évident, donc. Il faut vraiment aimer ce que tu fais pour faire de la musique.
Est-ce que vous aimez votre métier ?
Ah bah oui, j'aime beaucoup mon métier. Ouais, j'aime vraiment beaucoup mon métier. J'ai de la chance de pouvoir faire ce métier-là parce que je rencontre beaucoup de monde, je voyage beaucoup et que en plus je peux faire des chansons avec ce qui me passe par la tête et je fais ce que je veux. Donc c'est vraiment une grande liberté. Donc j'aime beaucoup ce métier. Ouais.
Quand vous dites que ça ne vous dérange pas que les gens téléchargent vos chansons sans les acheter, ça veut dire que ça ne vous aide pas de ne pas être payé ?
Ben non, ça ne me dérange pas en fait, tu vois. Parce que moi, je te dis, moi je suis payé quand je fais des concerts. Et si je vends des disques, je gagne un petit peu d'argent. Mais l'important pour moi, c'est de me faire connaître, tu vois. C'est de faire que les gens connaissent. Donc ça ne me dérange pas. Et puis je considère qu'une chanson, ça peut aussi se donner. Comme il y a plein de choses qui peuvent se prêter ou se donner ou s'échanger, tu vois. Donc non, ça ne me dérange pas, désolé.
Merci beaucoup Merlot d'avoir répondu à nos questions. Pour finir, accepterais-tu de jouer un petit morceau pour tous les auditeurs de Radio Cartable ?
Allez, on y va, une petite chanson ? D'accord.
Reportage dans mon cartable.
Bon alors, c'est une chanson sur votre ville, hein. Sur notre ville, moi j'habite à Ivry aussi, donc ça parle d'ici. D'accord ? Vous aviez compris ? Vous savez ce que c'est le 9-4, ce que c'est ? C'est quoi ?
Le 94.
Mais ça veut dire quoi ?
C'est quoi ? C'est le département.
Et c'est quoi son nom, au département ?
Le Val-de-Marne.
C'est tout, toi, vraiment. Bon. Bon, j'y vais. Alors,
Certains voudraient pouvoir toujours vivre en pagne, partir vivre tranquille à la campagne, courir dans les champs des fleurs dans les cheveux, et nourrir les poulets puis manger leurs œufs. Certains voudraient pouvoir toujours vivre en slip, habiter neuf d'eux dans une maison en kit, avoir une cheminée et un barbecue, vivre loin des cons, vivre loin des fous. Excusez-moi pour les gros mots, il y a des gros mots. Certains voudraient pouvoir toujours vivre en string, habiter Paris pour avoir du feeling, vivre dans les bars pour être toujours high, et de pouvoir dire j'habite la butte aux cailles. Certains voudraient pouvoir toujours vivre à poil, partir à Bali ou bien au Sénégal, partir au Mali ou bien à Tahiti, vivre au soleil avec le RMI. Moi je veux vivre ici, yeah. Vivre avec toi, vivre aujourd'hui, yeah. On est bien dans le 9-4, pas vrai? On feel alright. Vous savez ce que ça veut dire? C'est pas grave. Après, vous pouvez faire comme ça. Pas mal. Alors, certains voudraient pouvoir rouler en berline, passe dans la rue comme s'il passait un casting, le crédit signé jusqu'en 3044, et à la maison les gosses qui mangent des pâtes. Certains voudraient pouvoir rouler en Porsche, emballer tout ce qui bouge, y compris les moches. Tout dans la boîte à gants, pas grand chose dans le crâne. Il a la voiture et il aura la femme. Ouais, certains voudraient pouvoir rouler en vélo, pour sauver les arbres et les petits oiseaux. Certains voudraient avoir une caravane, pour aller s'installer là-bas sous les platanes. Ouais, certains voudraient pouvoir rouler en 4x4, ceux-là se prennent pour des aristocrates. Certains voudraient pouvoir rouler en Merco, ceux-là se prennent carrément pour des macros. Moi je veux vivre ici, wow. Vivre avec toi, ouais.
Avec toi.
Vivre à Ivry, wow. On est bien dans le 9-4, pas vrai? On feel alright. Vous savez toujours pas ce que ça veut dire? Alors bon, on fait la fin quand même. Moi je voudrais toujours vivre ici, vivre avec toi toute ma vie, sans avoir de trop grands besoins, sans avoir vraiment de soucis. Non, je veux vivre ici et être bien, je ne veux pas aller à Pékin. Vous savez où c'est? Je ne veux pas aller à Paris, pas non plus au Gobelin. Moi je veux vivre ici, oh, oh, oh. Vivre avec toi, ouais, ouais, ouais. Vivre aujourd'hui, même dans le 9-3. Vous savez c'est quoi le 9-3? Non, d'accord. C'est comme le 9-4 mais avec un 3, c'est vrai. Vivre à Ivry, on est bien dans le 9-4. Ouais. On feel alright. Ouais. Dans le 9-4. Feel alright.
Ouais.
Merci. Bravo.
Reportage dans mon cartable.
Alors, ça s'appelle C'est papa qui fait la cuisine. Chez vous, c'est qui fait la cuisine?
C'est maman, papa et moi.
C'est vous qui faites, c'est toi qui fais la cuisine. Bon, bah chez moi, c'est papa qui fait la cuisine. Alors. Chez nous, c'est papa qui fait la cuisine. Et maman qui bosse à l'usine. Papa qui fait la vaisselle. Et maman qui sent des aisselles. Papa qui fait la cuisine. Et maman qui bosse à l'usine, papa qui fait la vaisselle, et maman qui sort les poubelles. Mon papa tous les matins m'amène à l'école, et le reste de la journée, je sais pas ce qu'il bricole. Avec ses amis, si ça se trouve, il picole. C'est pas comme ça qu'ils vont devenir les rois du pétrole. Mon papa à la maison n'ouvre pas la bouche. Quand maman lui demande de me changer les couches, il s'écrase et il met sa langue dans sa poche. Papa à la pétoche. Chez nous c'est papa qui fait la cuisine.
et maman qui bosse à l'usine, papa qui fait la vaisselle, et maman qui, hein, chez nous c'est papa qui fait la cuisine. Tous les voisins hallucinent, papa qui fait la vaisselle, et maman qui sort les poubelles.
Voilà, c'est tout.
Merci Merlo d'avoir joué un petit morceau pour tous les auditeurs de Radio Cartable.
On espère que ton disque chanson d'amour et de haine se vendra beaucoup.
Et j'espère que ton disque sera pas piraté sur l'internet.
Ben merci, c'est le CM1B, c'est ça, hein. Ben merci beaucoup à vous, ça m'a fait très plaisir. Je vais aller chercher mes enfants maintenant qui sont à Makarenko. Et puis ben j'espère qu'on se reverra. Hein, moi je ferai un concert en juin. Si vous voulez, je vous fais une proposition. En juin, je joue à la fête de l'enfance. Vous connaissez la fête de l'enfance? Si vous voulez, venez voir le concert. Et puis si vous chantez un peu, eh ben, vous pourrez même peut-être monter sur scène, hein, CM1B, si vous avez une chanson. Mais c'est vrai, hein, s'il y a une chanson, franchement, vous venez. D'accord? C'est le 20 juin. Voilà. Et c'est, je rigole pas, hein, c'est sérieux. Donc si vous avez une chanson, vous venez la chanter avec moi, d'accord?
Au revoir à tous les auditeurs de Radio Cartable.
Adieu.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Radio Cartable. École d'Ivry.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand, avec à la technique le talentueux Xavier Lecomte, que je remercie très chaleureusement. Cette émission préenregistrée est consacrée à l'éditeur Léo Cher et à son livre « Manifeste du parti anarchiste » publié aux mêmes éditions Léo Cher. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cet ouvrage n'est pas un plaidoyer ni même une injonction à vivre selon tel ou tel modèle. Il s'agirait plutôt d'une épopée sentimentale, d'un autoportrait en creux, assez inattendu, où l'on découvre entre les lignes et à partir d'anecdotes intimes l'itinéraire d'un survivant, d'un aventurier du bonheur de lire, guidé, comme il le dit lui-même, par le seul souci d'une liberté absolue. On ne naît pas anarchiste, on le devient, nous dit encore Léo Cher, dont je vous invite à découvrir de ce pas le côté libertaire et résolument en marge. Bonne écoute à tous. Léo Cher, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons parler, Léo Cher, d'un livre très particulier. J'ai trouvé « Manifeste du parti anarchiste ». Ça vient de paraître dans votre maison d'édition, édition Léo Cher. Le titre est déjà surprenant, parce que il y a plusieurs mots. Le manifeste, donc ça, j'ai pensé à votre côté éditeur. Oui. Je me suis dit, là, c'est l'éditeur qui parle. « Parti et anarchiste ». Je dirais que le parti et l'anarchisme, ça fait pas toujours bon ménage. Alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer déjà, Léo Cher, le choix de ce titre?
Alors, j'ai trouvé ce titre à la suite d'une lecture d'un livre écrit par une philosophe, Catherine Malabou, qui s'appelle « Au voleur ». Et qui développe une thèse intéressante qui est que les philosophes français des années 70 ont volé les idées anarchistes, mais sans oser l'avouer vraiment. Qui est une thèse que je trouve amusante, assez pertinente. Il y a eu du vol, c'est clair, mais je pense que si ces philosophes ne se sont pas déclarés anarchistes, c'est parce qu'ils n'étaient pas. Je ne crois pas que Derrida soit un grand anarchiste. Et même en creusant énormément sa pensée, je crois plutôt que les philosophes des années 70 ont été surpris par les événements de mai 68 et qu'ils ont couru un peu après l'anarchisme qui a été effectivement la dynamique, le principe dominant des événements. Et ils sont passés à côté avant, pendant et probablement après.
Est-ce que
c'est un peu de cette lecture que vient l'idée du manifeste du parti anarchiste. Je suis retourné voir le manifeste du Parti communiste après la lecture de Catherine Malabou. Je me suis rendu compte qu'à l'époque où Marx et Engels écrivaient ce manifeste, le Parti communiste n'existait pas. Et comme je pense que, par nature, le parti anarchiste ne peut pas exister, je me suis dit, après tout, pourquoi vouloir absolument qu'il y ait un parti anarchiste pour en écrire le manifeste ? Si Marx et Engels ont été capables d'écrire le manifeste du Parti communiste alors que le communisme n'existait absolument pas et le Parti communiste encore moins, pourquoi pas pour l'anarchisme ? Donc c'était un peu une blague.
Oui, il y a un côté provocateur, enfin.
De plaisanterie plutôt. Je ne crois pas qu'on puisse provoquer beaucoup aujourd'hui.
Alors oui, il y a ça, il y a ce. Moi, j'ai pensé vraiment à votre métier d'éditeur, et puis voilà, manifeste, c'est quand même un sens très particulier. Vous dites pourquoi pas un manifeste pour un parti anarchiste qui n'existe pas et n'existera jamais par principe, mais le manifeste, lui, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de se vendre dans les librairies? Donc
oui, c'est une réflexion d'éditeur. Je me suis dit, mais Le manifeste du Parti communiste s'est bien vendu depuis un siècle et demi, de je sais plus combien, 1848. Alors pourquoi pas un manifeste du Parti anarchiste qui finira peut-être par exister. En tout cas, moi je trouverais ça intéressant que tout à coup dans l'histoire apparaisse quelque chose a priori impossible, qu'on appelle un parti anarchiste. C'est-à-dire quelque chose de complètement contradictoire.
Paradoxal,
voilà. Il en arrive des choses paradoxales. Pourquoi pas celle-là?
Et d'ailleurs, je me suis aussi posé la question, Léo Cher, en me disant, est-ce que c'est pas aussi le mouvement des Gilets jaunes qui aurait déclenché chez vous l'envie d'écrire ce manifeste du parti?